Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un livre fascinant, Oil and Water, How Energy Shapes Societies, Countries and the World. L'auteur, c'est Sundar Vedantam.
Oui, bonjour. Et ce livre, il démarre fort, je trouve, avec cette image d'un hélico orange vif qui atterrit sur une plateforme pétrolière là, en pleine mer d'Arabie.
C'est ça. Et l'auteur raconte qu'à l'époque, jeune ingénieur, il s'attendait à un truc plein de cambouis, de rouille, un atelier, quoi.
Exactement.
Mais ce qu'il découvre, c'est tout autre chose. Et c'est vraiment là que le livre nous accroche, je pense. Ce contraste initial.
Tout à fait.
Parce que Sundar Vedantam, il part de son expérience très personnelle sur ces plateformes dans les années 80. C'est le fil rouge.
D'accord. Mais attention, c'est pas juste une autobiographie. Le livre tisse constamment des liens entre cette réalité du terrain, l'ingénierie poussée, la vie en isolement, et puis les grands enjeux derrière, géopolitiques, économiques, environnementaux. Tout ce que l'énergie fossile implique pour notre monde, en fait.
C'est exactement ça qui nous intéresse aujourd'hui. On va essayer d'extraire quelques idées fortes, quelques anecdotes marquantes de Oil and Water à partir des infos qu'on a. Mais soyons clairs tout de suite, on va vraiment juste effleurer le sujet. Le livre est beaucoup, beaucoup plus riche. C'est une sorte d'invitation à la découverte.
Absolument. On ne fera que gratter la surface.
Bon, alors, commençons peut-être par cette vie offshore, justement. Qu'est-ce qui l'a tant surpris à son arrivée, au-delà de l'hélico orange ?
Eh bien, la grosse surprise, la première, c'est le confort. Presque le luxe, on pourrait dire, des quartiers d'habitation.
Ah oui ?
Oui. On est très loin de l'atelier crasseux qu'il imaginait. Il décrit une propreté impeccable, une nourriture hyper abondante, variée. Il va même jusqu'à compter 17 sortes de pickles indiens.
17 ? Au milieu de l'océan ?
C'est ça. Et puis des équipements de loisirs, ping-pong, salle de ciné, salle de sport. C'est ce décalage quoi, entre l'usine à haut risque dehors et cette bulle de confort dedans qui le frappe d'abord.
Ça en dit long sur l'organisation, la logistique derrière. Mais il n'y a pas que le confort, le rythme de vie aussi, non ? Ces fameux 14 jours de travail, 14 jours de congé.
Ah oui, ça c'est un point central. Un rythme très très particulier. Deux semaines à bosser, 12 heures par jour, parfois de nuit, sans arrêt. Et puis deux semaines complètes à terre.
Ça doit marquer.
L'auteur dit que pour lui, jeune célibataire à l'époque, c'était gérable, voire même un peu excitant au début. Mais il note bien la difficulté pour les collègues mariés.
J'imagine.
Ça crée une sorte de déracinement. Le livre parle d'un sentiment de n'appartenir à aucun lieu, ni vraiment sur la plateforme, ni vraiment à terre pendant les pauses. Une vie un peu en suspens, quoi.
Oui, ça donne une dimension humaine très forte. D'ailleurs, le livre est plein d'anecdotes personnelles, de leçons apprises à la dure, non ? Comme cette histoire avec l'hélicoptère. Une erreur de sécurité, c'est ça ?
Oui, et c'est une histoire assez incroyable. Il fait une erreur, une vraie faute de sécurité lors d'un transfert héliporté. C'est grave, là-bas.
On imagine.
Mais voilà, au lieu d'une sanction directe, on découvre qu'il a une expérience passée chez HAL, un constructeur d'hélico. Du coup, sa punition, si on veut, ça devient une mission. Préparer et donner une conférence sur la sécurité des hélicoptères à tout le monde sur la plateforme.
Ah, c'est intéressant, ça.
Oui, ça montre bien comment même un truc négatif peut devenir une opportunité si on sait la saisir. Une leçon sur la résilience et puis sur la valeur des compétences qu'on n'attendait pas là.
Transformer une erreur en quelque chose de positif, surtout dans un environnement aussi tendu. Il y a aussi des leçons plus terre-à-terre, on va dire. L'histoire du voltmètre.
Ah oui, le voltmètre. Moins glorieux, c'est sûr, mais très instructif aussi. Il prête son propre appareil, un voltmètre pour du courant continu 48 volts max.
D'accord.
À un technicien externe. Et l'autre, par manque de compétences ou d'attention, enfin bref, il l'utilise sur du 220 volts alternatif. Pfff, grillé direct.
Ouf.
Au-delà de perdre son matériel, c'est une leçon brutale, ne jamais présumer des compétences des autres, même pour un truc qui paraît simple. Et sur la confiance, dans un milieu où la moindre erreur peut être dramatique.
Ce qui nous amène logiquement à la sécurité, c'est omniprésent dans le livre, on a l'impression, plus qu'une ralague, une obsession.
Complètement. L'auteur est très clair là-dessus. Une plateforme, c'est une bombe potentielle. Donc la conscience du danger, elle est là, tout le temps. Chaque geste est analysé. Pas le droit de taper métal contre métal, pas de sillage en dehors des zones prévues, etc., à cause du risque d'étincelle.
Et l'équipement, j'imagine ?
Obligatoire. Combinaison orange vif, ignifugé, chaussures de sécurité, casque. C'est comme une seconde peau.
Et les systèmes de sécurité technique ? Il parle des vannes SSSV et SSV. C'est quoi exactement ? Comment ça marche ?
Alors ça, c'est vital. La SSSV, elle est sous la surface, dans le puits. La SSV, elle est en surface, sur la tête de puits. Le principe clé, c'est le fail-safe.
Fail-safe, c'est-à-dire ?
Ça veut dire que s'il y a un problème, une coupure de courant, une alarme, un ordre d'arrêt, le système se met automatiquement en position de sécurité. Ces vannes sont maintenues ouvertes par une pression hydraulique. Si la pression chute, zou ! Elle se ferme instantanément.
D'accord, ça bloque tout.
Exactement, ça isole le puits. Ça empêche l'éruption. La sécurité avant tout, même en cas de panne du système de contrôle. Et en plus, il y a des boutons d'arrêt d'urgence partout. Les fameux ESSD ou FSD.
C'est rassurant. Mais le livre raconte quand même un incident où ça ne suffit pas. L'histoire de la torche qui s'éteint, la flamme qui brûle le gaz en surplus.
Ah oui, un moment de tension incroyable ça. La torche, elle est essentielle pour brûler le gaz associé qui sort avec le pétrole et qu'on ne peut pas stocker sur place. Et voilà qu'elle s'éteint.
Bon, et ?
Et le pire, c'est que les systèmes d'allumage à distance, les trucs automatiques, ils ne marchent plus, en panne. Et laisser le gaz s'échapper comme ça, sans brûler, c'est hyper dangereux.
Mais alors comment ils font ? On ne peut pas juste...
C'est là que ça devient fou. La solution trouvée, c'est assez audacieux. Monter sur un bateau de service, s'approcher tout doucement de la plateforme...
Oui.
Et utiliser un pistolet lance-fusée, un verre-épistole, pour tirer une fusée éclairante vers le haut, vers le flux de gaz... pour le rallumer à distance.
Non, sérieux.
Si, si. Et c'est l'auteur lui-même qui se porte volontaire pour le faire. Ça paraît dingue, hein ? Mais apparemment, dans l'urgence, c'était la solution la moins risquée et la plus rapide. Ça montre bien le genre de situation imprévue et le sang-froid nécessaire.
Impressionnant. On sent la pression constante. Et tout ça, cette vie, ces risques, ça repose sur une ingénierie assez phénoménale pour aller chercher ce pétrole, ce gaz. Le forage, par exemple. Comment le livre décrit ça ?
Mais faut imaginer, hein. Forêt sous 75 mètres d'eau, puis parfois 2 km de roche sous le fond marin.
C'est énorme.
Et gérer des pressions dans le gisement qui peuvent atteindre 2000 PSI. C'est presque 140 fois la pression atmosphérique. C'est juste colossal.
Et les plateformes elles-mêmes ? Il parle de jack-up rig, c'est quoi ce truc ?
Alors ça, c'est une plateforme mobile. Assez spectaculaire. On la remorque comme une barge. Une fois au bon endroit... elle descend 3 ou 4 immenses jambes télescopiques jusqu'au fond.
D'accord.
Mais ensuite, avec un système de crémaillère, toute la plateforme, le pont de travail, est tissée le long des jambes pour se retrouver bien au-dessus des vagues. Ça crée une base stable pour forer. Et cette opération de levage, le jacking up, ça peut prendre plusieurs jours.
Une fois que c'est en place, on commence à forer. J'imagine avec des outils spéciaux, comment ?
Ah oui, des trépans en rotatif super costauds, avec des diamants industriels, du carbure de tungstène, pour broyer la roche. Mais l'élément vraiment clé pour la sécurité pendant le forage, c'est la boue.
La boue, ça a l'air basique.
Détrompez-vous, c'est un fluide super technique crucial. On l'injecte en continu dans le trou, ça sert à lubrifier, à refroidir l'outil qui coupe.
Ok.
Ça remonte les débris de roche à la surface. Et surtout, surtout, sa densité est calculée hyper précisément pour faire contrepoids à l'accrétion du gisement en dessous, pour empêcher le pétrole ou le gaz de remonter n'importe comment. C'est ça qui évite l'éruption, le blowout.
Et si jamais la boue ne suffit pas, c'est là qu'intervient le fameux BOP, le Blowout Preventer.
Exactement. C'est le dernier recours, un monstre de vanne ultra puissante sur la tête de puits, capable de couper net la tige de forage en acier et de sceller le puits hermétiquement en cas de pépin majeur.
Ah oui, quand même.
L'auteur rappelle d'ailleurs que c'est justement une défaillance de ce BOP qui a causé la catastrophe de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en 2010. Donc oui, c'est vital.
Le livre parle aussi de techniques pour optimiser, pour extraire plus, le forage directionnel. L'idée, c'est de ne pas juste creuser tout droit.
C'est ça. Forer un puits vertical, ça coûte une fortune. Et mettre une plateforme pour chaque petit puits, ce serait pas rentable si les zones intéressantes sont proches les unes des autres.
Logique.
Donc, avec le forage directionnel, depuis une seule plateforme, on peut forer plusieurs puits qui partent droit, puis qui dévient sous l'eau pour aller chercher le pétrole à différents endroits du réservoir. L'auteur prend l'image d'une horloge. La plateforme est au centre et les puits vont chercher le pétrole sous les chiffres 1, 2, 3.
Malin.
Et ça a évolué ensuite vers le forage horizontal pour suivre une couche de pétrole sur des kilomètres et même des forages très complexes qu'on appelle en spaghetti.
Ingénieux, c'est sûr. Et quand la pression naturelle du gisement commence à baisser, que fait-on ? Le livre mentionne les pump jacks.
Oui, ce sont ces grandes pompes à balancier. L'image d'Épinal, des champs de pétrole, surtout à terre. Elles pompent mécaniquement le pétrole quand il ne remonte plus tout seul.
D'accord, ça c'est la base.
Voilà, récupération primaire ou secondaire. Mais pour aller chercher encore plus loin, on fait de la récupération assistée. On injecte de l'eau ou du gaz dans le réservoir pour maintenir la pression et pousser ce qui reste de pétrole vers les puits qui produisent encore.
Et puis, il y a cette technique qui a fait couler beaucoup d'encre, le fracking, la fracturation hydraulique. Comment le livre en parle ?
Il explique bien le principe. On fore un puits, souvent à l'horizontale, dans une roche pas très perméable, comme le schiste. Puis on injecte, à très très haute pression, un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques.
Pour casser la roche, c'est ça ?
Exactement. Ça crée des micro-fissures, des fractures. Et ça libère le gaz ou le pétrole qui était piégé dedans. Le sable, lui, il sert à maintenir ces fissures ouvertes.
Une technologie qui a vraiment changé la donne énergétique mondiale, mais qui est aussi très controversée.
Tout à fait. Le livre présente bien les deux côtés de la médaille. D'un côté, le fracking a permis aux États-Unis d'accéder à des réserves énormes, de devenir le numéro un mondial du pétrole et du gaz, avec un impact économique et géopolitique majeur.
Et de l'autre ?
De l'autre, les questions environnementales. La consommation énorme d'eau douce. Les risques de pollution des nappes phréatiques, soit par les produits chimiques injectés, soit par le gaz qui remonte, la gestion des eaux usées après l'opération, le risque de déclencher des petits séismes, et puis le manque de transparence sur la composition exacte des produits chimiques utilisés. C'est un débat complexe, et le livre ne le cache pas.
Le livre regarde même vers l'avenir, avec des technologies comme la fusion nucléaire, un espoir pour sortir des fossiles.
Oui, il y a un passage là-dessus. Il explique bien la différence entre la fission, ce qu'on fait dans nos centrales actuelles, on casse de gros atomes, et la fusion. La fusion, c'est l'inverse. On veut faire fusionner des tout petits atomes, comme des isotopes de l'hydrogène, deutérium, tritium, pour libérer de l'énergie, comme dans le soleil en gros.
Et les avantages seraient ?
Potentiellement énormes. Un combustible quasi illimité, l'hydrogène de l'eau de mer. Et beaucoup moins de déchets radioactifs dangereux sur le très long terme, par rapport à la fission. Ça fait rêver sur le papier.
Mais ça a l'air tellement compliqué, hein ? Les défis sont immenses, non ?
Colossaux, oui. Il faut chauffer la matière à des températures dingues, plus de 100 millions de degrés. C'est plus chaud que le cœur du soleil.
Incroyable !
Et après, il faut réussir à contenir ce plasma brûlant pour que la réaction continue. Le livre parle du grand projet international ITER, en France, avec son approche tokamak, un genre de grosse chambre magnétique en forme de donut. Mais il mentionne aussi des projets privés qui tentent d'autres voies. L'espoir est là, mais l'auteur note aussi le scepticisme. La fusion viable commercialement, c'est souvent décrit comme étant toujours à 20 ans d'ici. Avec un peu d'ironie.
Une perspective un peu lointaine, donc. Revenons à des impacts plus immédiats. Le livre parle d'un truc économique assez contre-intuitif, la malédiction des ressources naturelles. Comment un pays riche en pétrole peut en souffrir ?
C'est un paradoxe, mais c'est une réalité observée dans plein de pays. Le Venezuela, cité dans le livre, en est un exemple frappant. Ils ont les plus grandes réserves de pétrole du monde, mais une partie énorme de la population vit dans la pauvreté, l'instabilité. Comment c'est possible ?
Oui, comment ? Il y a des explications ?
Le livre en donne plusieurs, basées sur des théories économiques. La plus connue, c'est le Dutch disease, la maladie hollandaise. En gros, l'argent du pétrole ou du gaz rentre massivement dans le pays. Ça fait monter la valeur de la monnaie nationale.
D'accord.
Conséquence, tout ce qui est fabriqué d'autre dans le pays devient trop cher pour être exporté. Et les produits importés deviennent très bon marché. Du coup, les autres secteurs, l'agriculture, l'industrie, ils souffrent, ils déclinent. Le pays devient hyper dépendant de sa seule ressource et des prix du pétrole qui font le yo-yo.
Ah, je vois le mécanisme.
Imaginez que tout le monde veut acheter vos poires, le pétrole. Votre monnaie devient si forte que plus personne n'a les moyens d'acheter vos poires ou vos cerises, les autres industries. Et souvent, ça s'accompagne de corruption, la richesse est captée par une petite élite, et les gouvernements gèrent mal cet argent facile, sans investir assez dans l'avenir, l'éducation, la santé.
Cette dépendance, ça nous mène directement à la géopolitique de l'énergie. L'OPEP, les prix, comment le livre analyse ces jeux de pouvoir ?
Il montre bien comment l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, a longtemps fait la pluie et le beau temps sur les prix. Mais aussi comment ce pouvoir a été contesté. Les prix, c'est les montagnes russes. Hein. $16 le baril en 98, $140 10 ans plus tard, puis ça rebaisse, ça remonte.
C'est très volatile.
Oui, ça dépend de la demande mondiale, la Chine. l'Inde qui consomme plus, des décisions de production de l'OPEP et de leurs alliés, comme la Russie, mais aussi de facteurs plus récents.
Et le fracking américain, c'est un de ces nouveaux facteurs clés, j'imagine ?
Exactement. L'explosion de la production américaine de pétrole et de gaz de schiste a complètement rebattu les cartes. Les USA sont devenus moins dépendants des importations. Ça a mis une pression énorme sur les prix mondiaux. Et ça a concurrencé directement les producteurs traditionnels, Arabie Saoudite, Russie, Venezuela.
D'accord.
Le livre suggère même que les difficultés économiques et politiques de pays comme le Venezuela, sous Chavez puis Maduro, sont en partie liées à ce choc provoqué par le pétrole de schiste américain. Ça a fragilisé leur modèle basé uniquement sur la rente pétrolière.
La bataille pour les ressources, elle se joue même dans des zones extrêmes comme l'Arctique.
Oui, c'est une autre frontière. Le réchauffement climatique, paradoxalement, ouvre l'accès à des réserves potentielles gigantesques sous la glace. Et forcément, ça aiguise les appétits.
Et les tensions.
Oui. L'auteur raconte cet épisode où un sous-marin russe a planté un drapeau au fond de l'océan Arctique, en 2007. Geste très symbolique pour revendiquer une énorme zone. Évidemment, les autres pays voisins, Canada, Danemark via le Groenland, Norvège, USA, ne sont pas d'accord. Et le fait que les États-Unis n'aient pas ratifié la Convention de l'ONU sur le droit de la mer, ça complique encore les choses.
Et le gaz naturel, le livre le voit presque comme une arme politique.
Il analyse surtout la relation entre l'Europe et la Russie. L'Europe de l'Ouest est devenue très dépendante du gaz russe, qui arrive par de gros pipelines. Et le livre montre comment Moscou a utilisé cette dépendance comme levier, notamment envers l'Ukraine, bien avant la guerre de 2022.
L'auteur souligne aussi une différence importante. Le marché du pétrole est mondial, flexible, grâce aux supertankers. Celui du gaz a longtemps été plus régional, à cause de ses pipelines fixes et chers. Même si le GNL, le gaz liquéfié transporté par bateau, change un peu la donne.
C'est fou de voir comment un sujet qui peut paraître très technique, l'extraction d'énergie, a des conséquences aussi vastes. Ça touche à la vie des gens sur les plateformes et en même temps aux grands équilibres mondiaux. C'est vraiment ça la force de Oil & Water, je trouve. Sundar Vedantam arrive à faire le lien entre l'infiniment petit, le détail technique, l'anecdote vécue sur la plateforme et l'infiniment grand. Les stratégies des multinationales, les décisions des États, les tensions géopolitiques et même les questions d'environnement qui nous touchent tous.
Absolument. Et c'est important de redire, je crois, à quel point notre discussion aujourd'hui, elle n'a fait que survoler le contenu de ce livre, Oil and Water, How Energy Shapes Societies, Countries and the World.
Tout à fait. On a juste effleuré la surface. Le livre est bien plus dense. Il y a beaucoup plus de détails techniques pour ceux que ça intéresse, des analyses économiques, géopolitiques plus poussées et surtout d'autres histoires personnelles vraiment prenantes.
Comme
Il raconte en détail le mystère de la pompe molle, une enquête technique qu'il a menée, ou comment il a bricolé un multivibrateur pneumatique avec les moyens du bord. Ce sont ces histoires vécues qui donnent vraiment sa saveur au livre.
C'est pour ça qu'on ne peut que recommander très vivement à ceux et celles qui sont intéressés par ces sujets de se procurer le livre de Sundar Vedantam et de le lire en entier. C'est la seule façon d'en saisir toute la richesse, toutes les nuances.
Oui, tout à fait. D'autant qu'il est disponible en plusieurs formats, donc c'est pratique. Il y a l'édition reliée, le hardcover, l'édition brochée, le softcover ou paperback, en format numérique e-book et même en livre audio. Donc il y a le choix.
Pour terminer cette exploration, quelle serait la pensée finale, la réflexion que ce livre nous laisse en suspens ?
Peut-être une conscience plus aiguë de la complexité folle de nos choix énergétiques. Le livre montre bien qu'il n'y a pas de solution simple, ni parfaite.
C'est vrai.
Même les alternatives vertes, il l'évoque rapidement avec l'exemple des panneaux solaires au Pakistan, peuvent avoir des conséquences sociales inattendues, des coûts cachés. Et surtout, Oil and Water nous rappelle tout le temps que derrière les chiffres, la technologie, les stratégies, il y a des humains.
Oui.
Les ingénieurs, les techniciens, les décideurs, les populations, avec leurs compétences, leurs erreurs, leurs espoirs et les défis énormes qu'ils affrontent. C'est une invitation à regarder au-delà des gros titres pour comprendre comment cette énergie, si vitale et en même temps si controversée, continue de façonner nos vies, notre monde, de manière très profonde et souvent invisible.